se bat contre les méchants. Il se braque contre la criminalité. Voici Roger Against les méchants.
L'ex-enquêteur du SPVQ, Roger Ferland, est avec nous, même s'il est en semaine de relâche au Cégep, parce qu'il enseigne au Cégep Garneau la technique policière. Comment ça va, Roger?
Très bien, messieurs, très bien. On relaxe à ce temps-là.
Passe une belle semaine.
Très belle, très belle.
Les policiers de Québec sont sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2023. On ne s'entend pas du tout avec la ville de Québec. Place maintenant à l'arbitrage. As-tu déjà vécu ce genre de situation-là dans ta carrière?
Oui, quand même, c'est arrivé souvent qu'il y a eu des conventions qui ne se réglaient pas. Par contre, c'est la première fois que je pense qu'ils vont se rendre jusqu'à l'arbitrage. Ça fait longtemps que les policiers en parlaient, à savoir bon, ben, quel ratio on a de service à la clientèle, où on est par rapport à les services municipaux au Canada, la qualité de service qui se donne, et quel était le salaire que les policiers devraient avoir mérité, surtout en fonction du territoire, la capacité de payer d'une ville. Alors là, je pense qu'on ne se rendait jamais là, mais je pense que là, ça risque d'y aller.
De ce que tu en sais, pourquoi on se rend à l'arbitrage, justement? T'sais, on est si éloigné que ça au niveau du salaire, ou c'est plus au niveau des conditions avec toute la montée en flèche là, des problèmes de santé mentale?
C'est un petit peu tout ça qui rentre en ligne de compte. C'est qu'en ce moment, sans qu'on entre en détail, vous avez vu ces dernières semaines, il y a eu des reportages souvent en disant quel était le pourcentage que la ville investissait versus son ratio pour le service de police. On se rendait compte que les policiers et policières de Québec donnaient un très grand rendement dans le service, mais ce n'était pas le pourcentage. Ils se plaignaient qu'il manquait de monde, ils se plaignaient que l'organisation... on manquait de personnel sur le terrain.
Oui, c'était 8,7% seulement du budget attitré à la police, alors que dans des villes comparables, même un peu plus petites comme Gatineau, on va pratiquement toucher au double là, en
Exactement.
Termes de pourcentage.
C'est pour ça, fait que sans dire qu'il faut qu'on se rende là, parce qu'il y a des façons de faire que le travail est fait différemment ici, il fallait quand même sûrement corriger des choses. Mais la direction a déjà changé des affaires en disant qu'il augmenterait le nombre de personnel, combien cela serait et tout. Par contre, il y a toujours une équivalence qui se fait un peu en province. Là, on a vu que la Sûreté du Québec a eu des bonnes augmentations, mais le travail en région est différent du travail ici qu'on a à faire en milieu urbain. Alors, si c'est vrai que vos policiers donnent un bon rendement, ben à ce moment-là, soyez équitable dans ce que vous payez. Mais là, on sentait très bien que ça semblait accrocher beaucoup. Puis souvent, à ce moment-ci aussi, on attaquait la fraternité. Fait que la fraternité tient son bout, à ce que je comprends. Puis là, ben, ils vont aller en arbitrage, alors ça va se trancher inéquitablement.
Roger, comment ce genre de situation-là ou ces négociations-là affectent non seulement le moral des troupes, mais le travail des troupes?
Je dirais, pour la quasi-totalité des policiers, ça ne changera rien au travail terrain. Puis le professionnalisme que les gens ont. Jamais les policiers vont toucher la sécurité des gens. S'il y avait lieu, on a vu dans le passé même, il y avait eu des fois un laisser-aller sur certains biais d'infraction. On avait vécu ça dans le passé.
Oui, ils m'ont-tu coupé étiquette, les policiers?
Bien, souvent, on l'a déjà vu faire comme moyen de pression. On dit, temporairement, on est moins capable de donner des billets.
On ferme plus les yeux.
Fait que là, moi, je peux rouler à 80 dans une zone résidentielle.
Sécuritaire.
On a déjà vu ça, mais je vous le suggère pas parce que ça a coûté cher aux services de police. Les villes sont allées en poursuite contre les fraternités des policiers, puis ils ont dit, regardez, quand vous êtes tombé en moyen de pression, les billets d'infraction ont baissé. Ils ont regardé, c'est des chiffres qui ont parlé par eux-mêmes. Alors, c'est une façon de faire qui devrait plus se faire. Mais je comprends que les gens voudraient ça, mais encore là, est-ce qu'on rend vraiment service à la population de juste laisser des chances pour des chances, c'est une chose. Mais ce que ça va faire, la sécurité ne sera pas touchée. Comme je vous garantis, le professionnalisme des gens, l'éthique est trop là. La seule chose, c'est que c'est sûr que ça va un peu nuire au travail administratif à l'interne. Ils vont essayer peut-être de ralentir certaines choses, mais je pense qu'il y a lieu de mettre des moyens de pression qui sont possibles sans toucher la population à l'interne, malgré que c'est très limité parce que les policiers n'ont pas le droit de grève, jamais. Fait que c'est un service essentiel, fait que ça devient très, très limité ce qu'ils ont comme pouvoir d'action. Fait que, d'après moi, l'arbitrage va devenir une solution pour eux autres cette fois-ci.
Tu as été enquêteur en chef pendant des conflits de travail. Ça bougonne-tu un peu un policier? Mettons, tu disais, je t'envoie à telle mission, là, puis là, il est en négociation de travail. Fais-tu, Roger, pourquoi tu me demandes ça? Ça me tente pas de le faire. Ou, ça y va tête baissée parce qu'il tripe à combattre le crime?
Souvent, après, c'est sûr que quand tu prends son café, tu vas entendre 3-4 commentaires du genre. Ouais, là, ouais. As-tu vu comment est-ce qu'ils gagnent les autres? As-tu vu ça? Puis souvent, ben, il y avait toujours des gars comme moi ou comme d'autres qui y rappelaient. Hey, tu payes-tu ton linge, mon grand? Ouais. T'es-tu heureux en ce moment? Tu fais-tu ce que tu veux? Bon, ben, il y a encore des bandits arrêtés sur le terrain. Fait que. Puis là, va t'en donc. Fait que c'est vrai qu'à l'interne, mais je vous dirais, oui, quand on entend ça, quand on se compare, on se console un petit peu. Là, fait que faut arrêter, mais c'est pas si pire que ça. Sincèrement, j'ai pas vu de gens découragés. On le sait aussi après qu'il y a un arriérage souvent qui réapparaît. Sur le coup, tout le monde a perdu son pouvoir d'achat. Là. Vous comme moi, là, t'sais, fait que c'est pour ça que tout le monde veut ce rattrapage-là. Mais il y a un rattrapage que je sais que les policiers de la Ville de Québec veulent depuis des années en disant on n'a pas la place qu'on devrait versus le ratio provincial et national.
Puis est-ce que les demandes sont... ou je vais changer ma question. Est-ce que toutes les demandes sont justifiées? T'sais, c'est-tu normal qu'on reste si loin que ça? Est-ce que les demandes des policiers sont justes? Puis c'est la ville qui a un drôle de comportement en voulant pas accepter ça?
C'est une question drôlement difficile que tu me poses là. Puis je vais te répondre une oui. C'est, bon, dans le sens que
c'est ça un fait droit... deux semaines en ligne que tu me sais.
Oui.
Roger. Il commence à être nuancé.
Ouais, c'est ça, qu'est-ce qui se passe?
C'est un droit de gestion. La direction peut décider de faire ce qu'elle veut dans l'administration. Puis la fraternité, elle, essaye toujours de regarder l'organisation du travail, comment on peut la faire équitablement. Il y a des idées qui sont apportées aux tables, mais est-ce que c'est à la fraternité d'apporter les solutions ou c'est à la direction? Moi, j'ai envie de vous dire, c'est à la tête de décider qu'est-ce qu'elle veut dans l'organisation. C'est comme ça qu'on est. La fraternité devrait aider puis supporter par l'après pour dire okay, comment on veut le faire. C'est ça ton objectif premier, comment on devrait le faire. On a souvent eu toutes sortes de positions là-dedans. Des fois, le syndicat était plus fort que ce que la ville était. On sent que maintenant, il y a la direction prend des décisions. Je pense qu'il faut qu'ils s'entendent, mais pour le bien-être des membres aussi à la fin. C'est ça qui est. Puis surtout, la dernière affaire, pour le public. On travaille pas pour nous, là. On est un service à la clientèle. Fait que c'est pour ça que très souvent, il faut le rappeler aux policiers, cette position-là, regarde, vous travaillez pour le monde, bien, occupez-vous donc de donner le service à la clientèle, montrez-le que ça va bien, puis après ça, on te prendra des solutions. Prenez le meilleur exemple, on le vit, nous autres, là, le festival d'été ici, mm-hmm. là. Regardez-moi les foules qu'il y a là, regardez-moi les façons, puis comment est-ce que ça circule quand même relativement bien. Il n'y a pas de débordement, il n'y a pas trop de problèmes. Très souvent, moi, je suis sorti d'un spectacle, puis ça m'est arrivé d'envoyer une pin directement des fois à la direction en disant « Je sais pas ce que vous faites, mais il y a des choses que vous faites assurément très bien parce que regardez comment ça se passe. Mm-hmm. » Là, on m'a expliqué, oui, le contrôle de foule, la façon que les policiers ont géré ça, la façon qu'ils ont se comporté. Mais comme je dis, cette sécurité-là, ça a un prix. C'est pour ça que des fois, les policiers ont envie de dire « Hey, redonnez-nous donc l'équité de ce qu'on a fait comme travail. » Parce que c'est vrai que c'est ça, c'est eux, mm-hmm. les artisans sur le terrain. Mais la direction veut toujours en faire le plus possible avec le moins. Mais là, on s'est rendu compte, les chiffres ont parlé par eux en disant, oui, là, réinvestissez un peu dans votre service de police parce que c'est normal que tout le monde crie qu'on manque de monde.
Roger, tu as frôlé le sujet un petit peu plus tôt. À quel point, parce que vous êtes un service essentiel, on le sait, il ne peut pas avoir de grève, à quel point c'est difficile de choisir ses moyens de pression quand on est en négociation, quand on est policier. Tu as parlé du « Ah, on se ferme les yeux, c'est étiquette ». On a déjà vu les pantalons, camouflage, jeans ou de clown ou de pyjama, peu importe. À quel point c'est difficile de choisir ses moyens de pression quand on est policier?
C'est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'on a vu toutes sortes de choses qui essayent de ne jamais toucher l'impact de la sécurité du public. Mais à toutes les fois, ils demandent toujours d'être créatifs. Ça serait quoi une bonne idée? Qu'est-ce qui ferait vraiment qui pourrait montrer qu'on est un service essentiel sans nécessairement toucher aucune notion de sécurité publique? À toutes les fois, je vous dirais, c'est un gros travail de création de la part des syndicats de nous donner des idées. Puis qu'est-ce qui seraient les suggestions? En fait.
As-tu un souvenir d'un peut-être un moyen de pression qui était un peu trop poussé, peut-être? Vous êtes allé trop loin, vous êtes fait reprocher parce que ça frôlait peut-être la sécurité du public. J'essaie de voir. T'sais, on parle tout le temps de il ne faut pas prendre le citoyen en otage. Tu te souviens-tu de quelque chose qui était peut-être trop poussé?
Ben, je me rappelle d'un événement quand il y avait ralenti la circulation, par exemple, sur les autoroutes. C'était pas ralentir. Ils ont dit deux véhicules, curieusement, de patrouille, ils vont circuler à 100 km/h. puis sur l'autoroute. Mais dans les minutes qui ont suivi, ça a créé d'énormes bouchons de circulation avec toutes les choses. Ça avait amené cette situation-là. Difficile. Je me rappelle d'une négociation très difficile aussi. J'étais très jeune policier. Où est-ce que les policiers étaient allés manifester en uniforme devant l'hôtel de ville et le maire avait donné l'ordre de désarmer tous les policiers.
Oh, okay.
Et les officiers étaient allés désarmer les policiers. Là, ça avait été une tension incroyable.
Ça a débrassé.
Pendant un certain temps, en 10 ans. Fait que l'officier allait voir le gars. Il dit « Parfait, t'es plus digne d'être policier temporairement. »
Donne-moi ton arme.
Et ça avait été épouvantable. La conséquence après, et pour ces officiers-là, parce qu'il y a un demain après, là.
Tu négocies
pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais il y a un demain après ça, tu reviens après ça au travail. C'est toi, tantôt, qui a posé ce geste-là. C'est pour ça que ça devient difficile, parce que c'est sûr qu'on est les arbitres de la société, je le dis souvent comme ça, fait que quand tu es à la fin, qui vient t'arbitrer tantôt? C'est pour ça que je pense que là, le vrai arbitrage va peut-être prendre une solution.
Donne-moi ton arme. Ça doit être quelque chose que les policiers ne veulent jamais entendre.
C'est ça. Ben, ça fait partie d'un réflexe foncièrement que tu ne veux pas avoir comme patrouilleur. Fait que quand quelqu'un vient te le dire devant le public, comme c'était arrivé, ça avait été, j'ai envie de dire, un certain affront. Je suis sûr qu'il y a des gens qui m'entendent comme policier qui doivent se dire hey, que ça avait été terrible, ça, cette affaire-là, puis on ne l'avait jamais pardonné à certains qui l'avaient fait. Là,
je termine avec une petite question en lien avec l'actualité. Brian Boutin-Craig a plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation, mais compte tenu qu'il a déjà fait de la détention provisoire, il ne lui reste que 7 mois derrière les barreaux. À quel point sa sortie de prison peut venir redonner un souffle à Blood Family Mafia?
Bien, ça fait partie d'un joueur qui peut retourner dans cette organisation-là. Est-ce que les conséquences qu'il va avoir eues vont être assez grandes? On ne le sait pas, mais c'est quelqu'un qui va être surveillé ou sûrement un peu quand il va sortir. Parce qu'on comprend que la tension est encore là un peu. Là. On a encore des événements dans la région qui se déroulent. Je pense que en ce moment, même les policiers arrêtent de compter, savoir quel bord il est, là, tout ça. Il y a un crime violent, on intervient avec. Fait que c'est un genre de personne qui risque de continuer. C'est à lui de faire ses choix. Mais je pense que les policiers vont être sur son chemin s'il y a lieu. Là,
elle pique sûrement, on va-tu finir par le trouver?
Sûrement. Mais dans quel état, je ne sais pas. Voyez-vous, parce que même lui, il est conscient qu'il s'est sacrifié un peu pour une cause en embarquant là-dedans. Il n'est pas sûr qu'il allait finir nécessairement en vie. Là. On a eu des commentaires des gens proches de lui. Je ne sais pas de quelle façon ça va finir. Mais est-ce que ça vaut tant la peine que ça de chercher à le récupérer? On a vu que Bolo a mis le paquet pour essayer sur lui. Mais j'ai envie de te dire, occupons-nous donc des gens terrain, limitons donc le travail terrain, on va arrêter d'y donner des ressources, puis tranquillement, il va peut-être trouver la vie plus dure là-bas, à l'extérieur, où est-ce qu'il se trouve, là, tu sais, parce qu'il utilise des belles techniques pour se cacher en ce moment, là, mais la technologie lui sert bien, mais s'il n'y a plus d'argent qui y rentre, d'après moi, il va trouver ça dur d'être en cavale. C'est dur d'être en cavale pour tout le monde, là. Les criminels ont tout le temps dit que c'était le pire moment de leur vie, souvent, parce qu'il faut qu'ils soudoient beaucoup de monde pour arriver à leur fin.
Wow. Roger Ferland, ex-enquêteur du SPVQ, ami du show, chroniqueur ici à Rage Against le matin, qu'on apprécie énormément, surtout lorsqu'il vient nous voir pendant sa semaine de relâche
Cégep.
Hey Roger, bonne semaine de relâche pour ce qui reste, puis toujours un plaisir quand tu passes nous voir.
Merci messieurs, bonne journée, bonne semaine.
Merci beaucoup Roger. Après la pause, on jase politique avec, entre autres, Pablo Rodriguez, qui est candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, avec Pascal Paradis du Parti québécois, et on vous gâte avec des billets pour aller voir Deftones au Centre Vidéotron. Rage.